On est ravis de vous accueillir dans l'intimité ce soir. Donc on a la Maison Populaire organise des cycles de séminaires chaque année, donc qui sont habituellement des séminaires, disons, qui font unité sur l'année. Donc il y a un grand thème sur toute l'année avec plusieurs séances. Donc cette année, ça s'appelle. Enfin, l'année dernière, ça s'appelait genre, normes et transgressions, et cette année, c'est encore autour de la question du corps. Et c'est le corps à l'épreuve, nos corps à l'épreuve de la République. Excusez-moi. Voilà. Donc, et cette année, on a décidé, en marge de cette programmation de séminaire, d'organiser d'autres petits séminaires autour de l'art qu'on a appelé Art in Vivo. Et donc autour de l'art contemporain. Donc il y a eu une première séance, il y aura trois séances dans l'année. Il y a eu une première séance qui tournait autour de la question de l'altérité de l'œuvre et de sa réception avec Dominique Château et Emmanuel Chérel. Donc là, une deuxième séance avec. Donc on a invité le bureau à programmer cette séance-là, le bureau qui sera nos prochains commissaires en fait d'exposition en 2009. Et donc la troisième séance Art in Vivo sera en avril autour de l'art et de la mondialisation. Et puis je vais laisser le bureau présenter ses invités et puis cette séance, donc l'art de l'exposition, une mise en perspective de l'exposition par la danse. Voilà.
Bonsoir. Donc effectivement, on est content de vous avoir avec nous ce soir et d'avoir des visages amis en plus, puisqu'on connaît presque tout le monde. Le thème effectivement de la discussion de ce soir, en fait, la Maison Populaire nous a invités à parler de la question de l'exposition. Et finalement, ça nous semblait intéressant de parler d'exposition en parlant aussi d'autre chose, peut-être pour prendre un peu de distance sur ce thème-là qu'on pratique tellement que peut-être qu'on finit aussi par avoir le nez trop dedans, je sais pas. Donc on avait un peu envie de le regarder autrement. Et on avait cette idée de voir quelle correspondance on pouvait trouver entre la question de l'exposition comme médium et le médium de la danse. Donc ça va être le sujet de la discussion. Avant ça, effectivement, on vous présentera brièvement le bureau et quelques expositions qui nous semblent assez liées à cette question de la danse, dans la mesure où exposition et danse partagent au moins une interrogation sur le temps et sur l'espace, ce qui est déjà pas mal. Et on ouvrira aussi la discussion à un projet qui est pas du tout le nôtre, mais qui nous intéresse beaucoup, qui est l'exposition qui se déroule en ce moment à la ferme du Buisson, qui s'appelle une exposition chorégraphiée, qui a été organisée par Mathieu Copland, donc à la Ferme du Buisson. Et on a donc invité Julie Pellegrin, directrice du Centre d'art à la Ferme du Buisson, à présenter le projet et à nous donner aussi peut-être son point de vue dessus, aussi en termes de structure qui est insérée dans une structure pluridisciplinaire, ce qui peut être intéressant aussi par rapport à la Maison Populaire même. Et Michael Philippot, qui est l'un des interprètes de cette exposition, qui est donc danseur, chorégraphe et artiste. Tu me dis si j'oublie quelque chose. Ok. Et qui notamment travaille avec le Club des Cinq, ce qui est le cas pour l'expo à la ferme. Et puis notamment hier soir aussi, tu faisais quelque chose au Labo d'Aubervilliers, non? Deux soirs de suite, voilà. Biportrait Jean-Yves, donc voilà. Donc peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en savoir un peu plus. Juste pour dire quelques mots sur le bureau, on est deux à le représenter ce soir sur scène, mais d'autres dans la salle, donc Céline et moi. On est sept personnes en tout. On travaille ensemble depuis un peu plus de 4 ans maintenant, sous forme d'un commissariat collectif. L'idée étant d'expérimenter un peu ce terrain qu'est l'exposition en offrant chacun nos points de vue personnels, de manière à produire un discours collectif et à essayer de montrer aussi plusieurs points de vue sur certaines œuvres. et à travailler sur peut-être les limites de l'exposition, enfin, en tout cas, ce qui la caractérise, la temporalité notamment, et ces unités de temps, de lieu et de personnages, on pourrait dire, quelque part. Voilà, je vais passer la parole à Céline pour qu'on commence peut-être à donner quelques exemples et quelques images pour parler de trois expositions qui nous semblent pouvoir amener un peu cette discussion par rapport à la danse et à l'exposition.
Merci. Donc la première exposition que je vais vous présenter, c'est les 35 heures. Donc, une exposition qui a eu lieu en décembre 2004 au laboratoire d'Aubervilliers. Donc 17 et 18 décembre, en fait, ça a duré justement 35 heures. Le principe de cette exposition non-stop était une exposition qui se formait comme une programmation, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec le fonds du FNAC, mais également en invitant des artistes pour des productions spécifiques. Donc le carton est une forme de caricature de cette programmation où on avait souhaité réfléchir aux limites de l'exposition, en particulier de l'exposition thématique. C'est-à-dire que les œuvres que nous avons choisies ont été montrées plusieurs fois dans l'exposition et de manière différente. On avait créé des formes de sous-thèmes dans lesquels apparaissaient les œuvres. Un exemple qui est assez clair, c'est l'œuvre de Guillaume Paris qu'on avait montrée dans deux thèmes, c'est-à-dire dans le thème consommation et dans le thème art abstrait. Là, ce que vous voyez, c'est la réserve et l'espace d'accueil. Donc, la réserve était donc dans l'espace d'accueil des laboratoires. Donc, toutes les œuvres étaient réunies dans cette réserve. Ensuite, il y avait deux salles, la salle blanche et la salle de spectacle, qu'on avait appelée pour l'occasion la salle noire. Donc, en fait, la réserve était à la fois on peut dire un endroit où toutes les potentialités de l'exposition en cours se retrouvaient. Et donc les œuvres sortaient les unes après les autres pour prendre place dans les deux salles d'exposition. Chaque mouvement d'exposition était rythmé de manière spécifique. Alors ça, ce qu'on voit, c'est le refrain. C'est-à-dire que donc il y avait d'une certaine manière des couplets. Le thème consommation était un des couplets. Le thème abstraction était un autre couplet, et puis ce refrain revenait rythmer l'exposition. Donc il revenait plusieurs fois pendant les 35 heures. Donc là on voit la salle blanche. Ce qui était intéressant, c'était qu'on avait donc cette salle White Cube et cette salle noire, cette salle de spectacle. Et un exemple, une des modalités d'accrochage avait été de faire un accrochage dans la salle blanche et un accrochage dans la salle noire, et ensuite d'inverser. C'est-à-dire les œuvres qui étaient dans la salle noire passaient dans la salle blanche et inversement. C'est-à-dire qu'elles étaient montrées de manière un peu spectaculaire dans la salle noire avec des spots. Et ensuite, on les retrouvait dans la salle blanche de manière plus nue, ce qui permettait d'avoir deux visages de ces œuvres. On voyait dans l'image précédente un des membres du bureau, Marc, en train de se préparer à porter une œuvre. On n'avait pas vraiment pensé ça comme une performance, mais il s'est avéré que pendant 35 heures, nous avons accroché et décroché des œuvres. Donc on était repérables parce qu'on avait forcément des gants blancs. Et donc il y avait ce mouvement de va-et-vient entre les deux salles et l'espace de la réserve. Donc ce qui est intéressant dans cette exposition par rapport à la conférence d'aujourd'hui, c'est cette question de partition et cette question de mouvement, de déplacement. Je prenais donc l'exemple de l'œuvre de Guillaume Paris, qui est ce cube en porcelaine sur lequel est peint un ruban, comme un paquet cadeau. Donc forcément, dans le thème consommation, l'œuvre prenait un aspect assez figuratif et interprétatif. Ensuite, quand on le montrait dans la partition abstraction, on se retrouvait donc face à une œuvre abstraite qui faisait référence plutôt au minimalisme. Donc là, vous voyez les œuvres qu'on a vues dans la salle blanche auparavant, dans la salle noire. Donc on voit bien que le rapport entre les différentes œuvres est différent et que cet aspect spectaculaire donne une autre lecture des pièces. Ouais. Là, on voit Wilfried Amendra, Philippe Durand. On avait invité aussi un collectif de musiciens à mettre en musique les pièces. Donc, c'était assez expérimental. Donc, il s'appelait Plaido, qui était aussi une autre façon de vivre cet espace d'exposition avec les œuvres.
Ça faisait partie d'une série de performances aussi au sein de l'exposition. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que les spectateurs restaient longtemps. Donc, ils pouvaient aussi revenir. Hein, l'entrée était payante, mais un ticket permettait de revenir plusieurs fois. Et on a eu des visiteurs jusqu'à à peu près 4 heures du matin. Et ensuite, on a d'autres visiteurs qui sont revenus pour le petit déjeuner à 7 heures du matin. Donc ils restaient et ils circulaient pendant les différents temps de l'exposition. Donc ça, c'est une première expérience. Une seconde expérience là, qu'on a fait à la galerie associative RLBQ à Marseille, donc en 2007, s'appelle « La muraille opaque grimpe en quinconce et inversement ». C'est un titre qui est un cadavre exquis, qui était un peu symbole d'une exposition qui fonctionnait sur le collectif, hein, sur la place de chacun et sur les réactions réciproques des artistes et des commissaires. En fait, on part souvent de choses assez pragmatiques pour monter nos expositions. Donc là, l'aspect pragmatique était qu'on n'avait pas assez de moyens pour permettre à tous les artistes de venir dans le lieu, expérimenter le lieu avant le montage. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire une documentation du lieu, en photo, en film, évidemment en plan. Et on a travaillé par échange postaux ou mail avec les artistes. Le protocole était de nous proposer une première pièce avec son système d'accrochage et son emplacement dans l'espace. À partir de cette première proposition des artistes, le bureau renvoyait une première proposition d'accrochage. Les artistes étaient invités à réagir à cette proposition en ajoutant une pièce, en supprimant leur pièce ou en modifiant leur proposition. Il y a eu évidemment des réactions transversales, c'est-à-dire que les artistes ont réagi les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire outre la réaction par rapport à nos propositions d'accrochage, ils ont réagi aux pièces des autres. Par exemple, là on voit donc cette baguette verte qui s'appelle Moitié-moitié. Qui est en fait une sorte de symbiose entre le travail de Johanna Fournier et le travail de Cyril Dietrich par Aurélien Maul. On a choisi pour cette exposition des artistes qui étaient à la fois artistes et commissaires, ou alors qui avaient l'habitude de travailler en collectif, qui étaient de toute façon déjà engagés dans une discussion, enfin dans une habitude de discussion. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est l'interchangeabilité des rôles, c'est-à-dire qu'au final, pendant la semaine de montage, tout le monde était plus ou moins commissaire de l'exposition. Certains artistes, comme Julien Tibéry, s'étaient mis vraiment dans cette position de donner leur avis sur le travail des autres et sur l'accrochage. Et l'accrochage s'est vraiment fait de manière collective. Là, ce qu'on voit, c'est l'espace de documentation où tous les échanges étaient accrochés, ce qui permettait en fait de voir la genèse d'une œuvre et d'une exposition collective. On voyait l'évolution des propositions de chacun. Ça permettait aussi de voir la différence de travail des artistes, certains ayant travaillé de manière plus personnelle, vraiment sur leurs propres pièces, comme Johanna Fournier qui a plutôt travaillé par rapport à l'espace. Et puis on pouvait voir le travail de Claude Catelin et d'Olivier Soulerin qui étaient vraiment en interaction avec les autres. Claude Catelin ayant vraiment joué un jeu un peu de sap, enfin je sais pas comment on peut dire, où il essayait de mettre à mal en fait le dispositif même d'échange en faisant des propositions qui pouvaient anéantir les pièces des autres. C'est-à-dire que il avait fait une proposition de mettre l'exposition dans le noir, ce qui pouvait être vraiment problématique pour certaines pièces. Et en fait, à chaque échange, il remettait l'exposition dans la lumière, la proposition d'après, il la remettait dans le noir, etc. Dans une proposition qu'il a appelée on-off. Et en fait, on a eu de la chance, c'est-à-dire que le dernier échange est tombé sur on, donc sur lumière allumée. Donc, c'était intéressant aussi de voir le rapport entre les artistes et de voir comment chacun se positionnait par rapport aux autres et comment chacun prenait sa place dans l'espace.
Un dernier projet qu'on voulait évoquer ce soir est un projet qui était très court, qui s'appelle 30 minutes et qui durait 30 minutes, qui en fait répondait à une invitation du Béton Salon, qui faisait un colloque, appelé proposition de colloque, à la Fondation Cadiste au printemps 2007. Ce colloque durait 2 jours et en fait il y avait une succession d'interventions qui questionnaient de manière différente la discussion, la prise de parole ou la méthode de travail, enfin des choses comme ça qui étaient beaucoup sur la question du processus aussi et qui du coup prenaient la forme de discussion, de présentation et de discussion avec le public. Mélanie Bouteloup et Anna Collin nous avaient proposé de faire une présentation de notre méthode de travail justement et on avait eu envie de proposer pendant les 30 minutes qui nous étaient allouées plutôt une sorte de mise en scène de pièces, donc une exposition dans un espace qui accueillait le public et qui donc ne permettait pas non plus un accrochage au sens classique du terme. Et comme il s'agissait aussi de paroles et de discours dans ce projet plus général, on a voulu présenter des pièces qui étaient uniquement basées sur la parole et le langage. Et on a travaillé avec ces 5 artistes qui, pour certains, sont, par exemple, dans le cas de Marceline Delbecq, travaillent énormément avec ce médium texte enregistré. Et pour d'autres, un peu moins, il y avait également sur les 5 interventions, 2 pièces qui étaient live, si on peut dire, et qui du coup aussi activaient cette question de la temporalité de l'exposition courte et vécue comme un événement presque aussi. Les 3 autres pièces, celles de Marceline Delbecq, Mia Rosasco et Yann Serrandour, étant des enregistrements. Et il y avait quand même la question de la mise en espace qui se posait, puisqu'il fallait que les pièces sonores ne se contaminent pas, merci. Et donc il y avait vraiment l'envie de créer des points d'écoute. Et en même temps, ce qui était un challenge aussi, c'est que ce moment d'exposition s'insérer entre 2 interventions au sein du colloque et que c'était aussi, je pense, quelque part une pause aussi pour les gens qui ont vécu ce colloque. D'ailleurs, Julie était présente, elle est intervenue avec Keren Deton et Marie-Cosette à propos de leur programmation de la boxe. Et peut-être que tu nous diras ce que tu en as pensé aussi, si jamais c'est intéressant, mais par rapport à la discussion, je veux dire. Par rapport à la discussion, je précise. Mais juste pour dire effectivement que, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme une sorte de pause et il y avait un moment intéressant où finalement les gens relâchaient un peu la tension de l'écoute comme ça qu'ils avaient par rapport à ces interventions. On est tous assis, on écoute voilà, des projets qu'on n'a pas forcément vus, etc. Et puis, il y avait un peu une hésitation. Au début, l'attention du public n'était pas du tout focalisée sur cette expo. Et puis tout d'un coup, ça se concentrait quand même parce que les gens se concentraient autour des enceintes. Et je crois que c'est ce que montrent assez bien les photos puisqu'il n'y a finalement que le public à voir quasiment dans ces photographies. Là, le téléphone, le téléphone, c'était une pièce de Julien Discry qui était une performance, si on peut dire, parce qu'il il appelait de Mayotte, où il était en vacances. Et il nous parlait directement au téléphone en faisant une sorte d'improvisation, de description sur le lieu dans lequel il était pendant une déambulation. Ici, c'est la performance d'Émilie Pitoisé, avec un texte qui était lu, donc on était sur un mode très très différent. Et presque inaudible, oui, parce qu'il y avait cette question, en fait, c'était une pièce qui jouait sur l'effet de l'Arsen. Donc le langage était sans cesse coupé, en fait, par l'effet de l'Arsen et l'ondulation sonore, quelque part. La pièce de Marceline Delbecq, je crois que c'est celle-là, ouais. était concernait plus la question de la description d'une œuvre, enfin, d'une exposition en l'occurrence, et de plusieurs œuvres. Donc c'était vraiment une narration qui était censée permettre à l'auditeur de se projeter et d'imaginer, de visualiser ce qui était en train d'être raconté. Vas-y.
Oui, je voulais juste rajouter que aussi une des deux il y avait deux motivations aussi à l'origine de ce projet. C'était de proposer des points d'écoute différents, c'est-à-dire de plus être dans un rapport dual avec une seule voix et un spectateur-récepteur. Là, le spectateur avait le choix, en fait, de ses déplacements et de ses écoutes. Et aussi, on avait choisi de faire un discours en acte, c'est-à-dire plutôt que de discourir sur notre pratique, d'être directement dans la pratique. Et juste par rapport au contenu de la conférence, ce qu'on peut voir aussi entre les 35 heures et les 30 minutes, c'est les déplacements des spectateurs et leur positionnement particulier dans ces expositions qu'on va retrouver aussi avec une exposition chorégraphiée.
Oui, c'est une très bonne transition, c'est ce que j'allais faire. je pense qu'on va vous passer la parole et puis effectivement après on peut revenir sur des choses et effectivement si le public a des questions ou des remarques, on y passera ensuite.
Bonsoir. Donc comme vous disiez Émilie, donc je vais vous présenter un petit peu cette exposition chorégraphiée que certains d'entre vous ont vue, d'autres non. Rapidement, donc c'est une exposition qui a lieu en ce moment encore jusqu'à fin décembre, qui a été organisée, pensée, imaginée par un commissaire d'exposition extérieure à la ferme du Buisson, qui s'appelle Mathieu Copland, qui a l'habitude de travailler, on va dire, pour faire vite sur des formes un peu... de questionner aussi les formats d'exposition et de travailler sur des formes un peu expérimentales, même si on peut considérer que toute exposition est une forme expérimentale. Mais pour donner quelques exemples, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec la question du temps, qui avait fait une exposition au Musée d'art contemporain de Lyon, je ne sais plus en quelle année, en 2003, je crois, qui s'appelait Soundtrack for an Exhibition, qui était une exposition qui se développait dans le temps autour d'une bande-son qui avait été commandée à des artistes et la bande-son durait 90 jours. Et l'exposition était constituée de cette bande-son, d'un film qui était lui aussi en évolution perpétuelle et d'une série de peintures de John Armleder qui s'auto-détruisait au fil du temps. Il a aussi organisé ce qu'il a appelé une exposition parlée, pour laquelle il avait commandé à des artistes des œuvres comme ça qu'on pouvait raconter, et l'exposition était vide, et quand le spectateur rentrait dedans, il pouvait demander à entendre une des œuvres, ou plusieurs d'entre elles, ou la totalité de l'exposition à la personne qui gardait l'espace, donc le médiateur ou la médiatrice qui racontait en fait de personne à personne les œuvres de l'exposition. Donc l'exposition chorégraphiée, elle découle en fait directement de cette exposition parlée d'une certaine manière, puisque Mathieu voulait continuer à travailler sur cette question de l'exposition dans sa temporalité et dans sa ce que ça peut générer en termes de durée de vision aussi comme ça d'une exposition qui serait une polyphonie et construite comme une partition à partir de différentes pièces. Donc par rapport à l'exposition chorégraphiée, donc c'est une exposition dans un espace vide dans laquelle se trouvent trois danseurs qui interprètent une série de pièces écrites par des artistes, huit artistes pour être précis, il y a sept pièces. Donc ce que dit Mathieu sur son implication de commissaire, ça on aura l'occasion d'y revenir après, peut-être, je pense que c'est assez intéressant. Il dit que c'est vraiment un geste minimal, c'est-à-dire que pour lui, il n'a presque rien fait, il a juste décidé de trois choses, que l'espace serait vide, donc il voulait absolument qu'il n'y ait pas de dispositif scénique, de costume particulier, même si là on voit que les danseurs portent quand même des vêtements un peu choisis. On a mis du temps à choisir, vous aussi. Pas de lumière dramatique, pas de musique, pas d'accessoires, etc. Et que ce soit vraiment une confrontation entre trois corps, trois interprètes et un espace d'exposition. Avec un autre paramètre qui n'a pas été directement décidé par lui, qui était celui du temps de l'exposition, qui, lui, allait être déterminé par le lieu même où allait se tenir l'exposition, c'est-à-dire que, en quelque sorte, les règles du lieu vont devenir les règles de l'exposition. À la ferme du Bisson, l'exposition dure presque 2 mois, comme la plupart des expositions. Elle est ouverte 3 heures par jour, 6 heures par jour, 3 jours par semaine, comme le reste les autres expositions. Donc, il a, comme ça, à partir de ce point de départ, choisi 8 artistes pour leur commander des pièces. Donc, ce sont vraiment des pièces qui ont été écrites spécifiquement pour l'exposition. Il a en fait choisi des artistes de chant différents. Il y a des artistes plasticiens. Pour le coup, eux ne le sont pas du tout, mais c'est plutôt des artistes qui travaillent autour de la performance ou d'œuvres très conceptuelles ou de performances vocales, etc. Donc, par contre, pas des artistes qui avaient l'habitude de travailler avec des interprètes ou avec la question du corps comme ça. Il a choisi aussi des chorégraphes qui, eux, devaient aussi se défaire de leurs habitudes parce qu'ils avaient hyper l'habitude de travailler avec des danseurs, mais par contre, pas dans un espace d'exposition. Et il y a aussi un musicien qui s'appelle Michael Parsons, dont on va reparler un petit peu plus tard. Donc les artistes sont, à partir de ce protocole, on peut aussi, on verra si on parle vraiment de protocole ou pas, quand il est aussi simple, mais imaginez des pièces pour un trio d'interprètes en quelque sorte, et ces pièces ont pris la forme soit de consignes, soit de partitions plus ou moins écrites, sans restriction de temps par contre, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui durent quelques minutes et la plus longue dure environ 1 heure. Et donc pour l'exposition, toutes ces propositions sont agencées dans un certain ordre. Il y en a qui ouvrent l'expo, qui la ferment. Il y en a qui reviennent régulièrement dans la journée d'exposition. Il y en a d'autres qui sont joués qu'une fois. Et tout ça forme un mouvement général. Et ce mouvement général, c'est l'exposition. Donc on peut considérer que l'exposition dure une journée entière. Mais en même temps, comme elle est en transformation permanente, on peut aussi considérer que l'exposition, c'est les 7 semaines de présentation, et que le début c'est le 8 novembre et que la fin de l'exposition c'est le 11 décembre. Mais bon, 21. Merci. Si vous avez des amis qui veulent venir plus tard, que le 11 décembre c'est possible. Donc l'idée en fait c'est que c'est vraiment pas une suite de performances à un moment donné de la journée avec à heure fixe, quoi, avec un timing où on sait que à telle heure on va voir la pièce de Carl Lundquist ou à telle heure on va voir la pièce de Michael Parsons. C'est vraiment un flux continu, donc les danseurs sont là pendant 6 heures par jour pendant presque 2 mois, et quand on arrive en tant que spectateur dans l'exposition, on ne sait pas sur quelle pièce on va tomber. Et donc on a une feuille de salle dans laquelle sont plus ou moins décrites les pièces, qui permet quand même de retrouver ce qu'on est en train de voir. Mais l'idée, c'était d'éviter l'effet cartel aussi et de vraiment être en confrontation immédiate avec une œuvre avant même de savoir qui l'a faite et d'arriver à la relier à autre chose de son travail, etc. Donc on a comme ça, je décris peut-être quelques pièces pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, parce qu'en fait c'est pas si évident. Bah, la première dont je voulais parler, vous l'avez ratée, donc nous n'avons pas d'image. Après oui. Comme ça au hasard, mais je peux les décrire, les pièces, ou Michael aussi. La pièce, une des pièces qui ouvre l'exposition, c'est une pièce de Roman Ondak qui s'appelle Insiders, et où il demande aux danseurs les danseurs arrivent en fait au début de l'exposition avec leurs vêtements de tous les jours. Il leur demande de les enlever, de les retrousser et de les réenfiler à l'envers, de passer un moment comme ça et ensuite de les réinverser et de les remettre dans le bon sens avant de passer leur costume. Ils ont fait ça comme ça. Et cette pièce revient à la fin de l'exposition pour la clore. La pièce de Michael Parsons dont je parlais tout à l'heure, qui est la pièce la plus longue, là on n'a pas d'image non plus. Ça fait partie aussi de l'histoire de l'exposition, c'est qu'personne n'aura vu la même chose, donc voilà, vous en avez vu un certain nombre, mais pas celle-ci. Et Michael Parsons, c'est la seule pièce qui existait avant, qu'il a complètement réécrite, mais néanmoins, qui est une pièce de 1969. Michael Parsons, c'est un musicien expérimental, un peu un des pionniers de la musique minimaliste en Angleterre, dans la lignée de John Cage et de tous les expérimentalistes américains. Et il a fait cette seule performance physique, en fait, dans l'espace public en 69, qui s'appelle Walking Peace, et qui est une série d'instructions, c'est une pièce très algorithmique, on peut dire, qui sont données aux spectateurs ou à des gens qui sont vraiment des non-professionnels, et ils doivent réaliser une série de pas, en fait, dans l'espace public, en suivant les instructions qui sont notées sur les cartes, à savoir... dans quelle direction tu vas, c'est ça, dis-moi si je me trompe, ouais, combien de pas effectuer et la vitesse.
Et la rotation.
Et la rotation.
Et le temps.
Donc le temps, par exemple, que tu restes immobile, voilà.
Le temps de pause, le temps également du trajet et la vitesse que tu as dit.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, là, il l'a réécrite pour un espace fermé et pour trois danseurs spécifiquement. Il y a des pièces qui sont beaucoup plus dansées, dont celle de Philippe Egli, qui est un chorégraphe suisse, qui... Ah oui, on peut la voir. donc, qui a proposé un certain nombre d'exercices chorégraphiques comme ça, que les danseurs tirent au sort chaque jour. Ou encore la pièce de Karl Holmquist, qui, elle, est une pièce vocale, un espèce de cut-up réalisé à partir de chansons pop que les danseurs interprètent, qui changent donc chaque jour et qui sont amenés à réaliser quasiment en canon, en déambulant de manière aléatoire dans l'espace d'exposition. Donc ça, c'est vraiment une pièce qui révèle aussi l'acoustique du lieu, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, comme on disait l'autre jour, les danseurs sont vivants, donc pendant 6 heures, ils ont besoin de se reposer, d'aller aux toilettes, de boire, de manger. Ce que nous, en tant que commissaires d'exposition, n'avions pas forcément pris en compte. Donc c'est Jennifer Lacy qui était une des artistes invitées, qui en fait écrit toutes les transitions entre les différentes pièces. Et par ce biais-là, qui a incorporé en fait tous les moments de pause dont avaient besoin les artistes, les danseurs. Donc ça, peut-être que Michael, tu raconteras un peu plus précisément le déroulé. Donc là, on s'aperçoit qu'il ne s'agit quand même pas de danse au sens classique du terme, ou en tout cas, c'est de la non-danse, ou je ne sais pas, dans le champ de la danse, comment on a appelé ce type de mouvement ou de chorégraphie. Voilà, personne ne sait trop. Donc c'est plutôt des gestes qui sont parfois plus proches du théâtre ou de la performance ou même d'activités quotidiennes. Ce que je trouvais intéressant, parce que du coup c'est une expo qui dans sa définition échappe complètement à ce qu'on voudrait en faire, puisque on dit qu'il s'agit d'une exposition chorégraphiée. En même temps, c'est pas vraiment une exposition. Enfin, en tout cas, on peut dire que c'est pas une exposition. Et en plus, c'est pas vraiment dansé. Donc ça, même les enfants qui sont venus la semaine dernière s'en sont aperçus. Il y en a un qui a dit, pour moi, c'est tout sauf de la danse. Donc voilà, c'est comme ça un objet hybride, mais qui est quand même intitulé une exposition chorégraphiée. Et ça, c'est très important parce que cette désignation, en quelque sorte, permettait aussi de travailler sur des codes artistiques précis qui liaient les deux champs de l'art et de la danse. À partir du moment où on dit c'est une exposition, évidemment, on joue sur des attentes, enfin, il y a une mise en jeu comme ça des attentes, des comportements, des regards et des lectures qu'on peut porter sur cet objet-là. Quand on dit qu'elle est chorégraphiée également, en fait, on se confronte à d'autres cadres de lecture qui sont liés à la danse, etc. Et il y a une oscillation comme ça permanente entre ces deux lectures ou ces deux perceptions qu'on peut en avoir. Mais j'ai l'impression qu'en tant que spectateur, si on commence à regarder ça comme une exposition, et puis tout d'un coup ça peut devenir plus un spectacle, et puis immédiatement ça devient encore autre chose. Et moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment dans cette exposition. Donc c'est une expo que j'accueille, hein, que j'ai pas pensé, mais c'était cette idée de c'est aussi ce que je trouve vraiment intéressant dans les 35 heures, de flux permanent en fait, et d'activité constante qui ne s'arrête jamais, et du coup qui fait que l'exposition elle-même est prise aussi dans notre flux quotidien d'une certaine manière. Je suis mes notes parce que je suis trop fatiguée pour improviser. ouais, cette question en fait de la transformation comme ça permanente était vraiment intéressante, et c'est ce qui faisait dire à Mathieu d'ailleurs que l'exposition n'est pas c'est pas 6 heures d'exposition, puisqu'en fait pour voir toutes les pièces il faudrait rester 6 heures, ce que certaines personnes font, d'autres pas, mais en fait pour voir toute l'exposition il faudrait rester 2 mois. Donc personne ne connaît l'exposition dans son entier, pas même les danseurs, puisqu'ils sont 4, ils sont 3 toujours sur place, mais ils sont 4 à se relayer. Donc il n'y a pas une seule personne qui vivra en fait la totalité de l'exposition. Ce qu'il en restera, c'est uniquement des fragments de souvenirs chez les uns et chez les autres en fait. Et je crois que dans la manière même dont se passe l'exposition, dans sa structure en fait autour de cette idée de geste qui est vraiment par essence éphémère, dans le geste il y a vraiment cette idée que dès qu'il est apparu, il a déjà disparu en fait. C'est quelque chose qui est vraiment toujours en devenir en quelque sorte, qui se fiche jamais et qui reviendra jamais deux fois de la même manière. Et du coup, de ce point de vue-là, ça m'intéresse de considérer cette exposition, puisque c'est quelque chose, on a toujours l'idée que l'exposition, c'est quelque chose qui se construit, qui se forme, etc. Et ça, et cette expo nous montre que, comme certaines des vôtres, d'ailleurs, beaucoup des vôtres, qu'en fait, une exposition, c'est aussi quelque chose qui se forme et qui se déforme aussi. Et qu'elle peut être dans ce processus permanent de construction et de destruction, on peut dire d'une certaine manière, à partir du moment où les choses disparaissent. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, au tout départ pour Mathieu, une manière de réfléchir à des choses très fondamentales, d'une certaine manière, à savoir comment est-ce qu'un mouvement peut être une œuvre d'art, est-ce qu'une œuvre d'art peut être un mouvement, et puis évidemment, de manière générale, est-ce que l'art, c'est pas le mouvement par excellence Voilà, donc ça nous emmène assez loin. Moi, ça m'intéressait beaucoup, d'une part, par rapport à l'espace, mais ça, on va peut-être en reparler après, parce que c'était mon espace et que je l'ai complètement découvert, enfin redécouvert ou découvert à travers cette exposition, à travers la manière dont vous la révélez par vos mouvements, votre voix, enfin qui font vraiment... qui révèle cet espace et en même temps le transforme. Et puis tout ce que ça implique aussi de la position du spectateur par rapport à une exposition comme ça, qui est, enfin pour moi c'est vraiment une expérience de spectateur absolument extraordinaire. On n'est évidemment plus du tout dans une logique d'exposition comme un objet à regarder, mais vraiment comme une expérience à vivre. Du coup, on est dans un rapport hyper, enfin, actif à l'espace et aux œuvres. On est obligé de se repositionner en permanence. On disait avec Émilie qu'il y a des marches, comme vous pouvez voir, dans l'espace de la ferme du Buisson. Donc on est tenté à certains moments de s'asseoir et de retrouver une position de public extérieur, de recréer cette distinction scène-salle. Mais aussitôt qu'on a fait ça, en général ça dure pas longtemps, et les danseurs partent ailleurs dans l'espace faire autre chose, et du coup on est obligé de les suivre. Donc on est sans cesse nous-mêmes en mouvement, quoi. Et de ce fait-là, on fait évidemment partie intégrante de l'exposition. On devient hyper conscient de nos déplacements, de nos gestes, de la manière dont on se place, dont on regarde les autres. Voilà. Et donc on a eu quelques belles scènes comme ça de spectateurs qui regardaient d'autres spectateurs en pensant qu'ils étaient les interprètes de l'exposition. Voilà, pour la présentation rapide. Mais du coup, je vous laisse présenter peut-être. Michael Philippot.
Bon, bonsoir, je m'appelle Michael Philippot. Moi, je ne peux pas suivre mes notes parce que je n'en ai pas. Non, simplement, je me disais aussi que c'est une exposition qui a déjà eu lieu à Saint-Gall. Et en Suisse, et qui était interprété par 17, je crois, danseurs, 12, autant pour moi, qui se relayaient, du coup, par 3, 4 heures par jour, c'est ça, mais sur 5 jours par semaine, je crois que c'était. Donc c'est vrai que là, on a une épreuve du temps, dans la mesure où on est 4 à se relayer sur ces 3 week-ends, qui est une véritable épreuve du temps sur 6 heures. Et pour ma part, c'est vraiment cet aspect-là qui est le plus bouleversant dans ce type d'expérience, dans le sens où le temps et le vide sont des gouffres immenses dans cette proposition d'exposition, dans la mesure où aussi il y a beaucoup plus de temps que nous passons seuls que accompagnés, entre guillemets, de spectateurs. Et parfois, c'est assez vertigineux de vide. Voilà. Non, voilà, par exemple. Non, comme tu parlais du Club des Cinq, je fais simplement une petite aparté sur l'historique très rapide de ce qu'est le Club des Cinq. Donc, comme son nom l'indique, c'est un collectif de 5 personnes, 5 interprètes danseurs. En l'occurrence, dans l'exposition, nous sommes 3 du Club des Cinq et une 4e qui est ici, qui s'appelle Carole, qui est une guest du Club des Cinq, qui est une personne avec laquelle on collabore assez régulièrement. On est vraiment parti de cette question de qu'est-ce qu'être interprète et pourquoi se réunir en collectif pour questionner cette place-là. Donc on a vraiment été dans un espace d'expérimentation pendant à peu près 2 ans. Et ensuite on s'est frotté à l'espace de la performance pour ensuite questionner davantage qu'est-ce qu'est une production et quels moyens on se donne en tant qu'interprète pour parvenir à faire une pièce assez classique avec un système de production, etc. Et on a du coup travaillé sur des formats un peu différents à chaque fois. On a essayé de questionner différentes places qui est celle d'être interprète. On est chacun interprète et du coup on gagne notre vie en étant danseur, entre autres, et ensuite de se frotter à quelle est la position d'être qu'est-ce qu'être interprète, qu'est-ce qu'être chorégraphe, qu'est-ce qu'être entre les deux, qu'est-ce qu'être producteur, qu'est-ce qu'être diffuseur, etc. etc. Le Club des Cinq est mort depuis septembre dernier, mais l'exposition chorégraphiée est, on va dire, la dernière expérience, la dernière expérience qui clôt un peu la vie de ce collectif-là. Donc le 21 décembre, le Club des Cinq sera définitivement mort. C'est vraiment une... Ça devient officiel ce soir. Oui, c'est une grande nouvelle. En fait, on a... je pensais à Jennifer Lassé, qui est une chorégraphe avec laquelle nous avons collaboré par différents biais, qui a été la personne qui a proposé à Mathieu... Mathieu nous a contactés parce que Jennifer Lassé nous connaissait, et en fait, c'est vrai que pour travailler sur cette exposition, il était important qu'on se connaisse en amont, dans la mesure où la période de transmission des 7 œuvres était très courte, c'était vraiment sur 4 jours. Donc deux artistes étaient absents, mais les autres artistes venaient au fur et à mesure. On travaillait 2 heures avec l'un, puis on enchaînait 2 heures avec l'autre, et on les voyait 2 jours d'affilée. Donc le processus de transmission a été très, très rapide. Et enfin, Mathieu, du coup, a commencé par nous transmettre l'œuvre de Romane, qui est celle que tu décrivais, qui entame et qui presque clôt l'exposition, presque, parce qu'en fait Jennifer, qui travaille sur ces dites transitions, mais j'imagine que quand on est spectateur de cette exposition, les transitions n'en sont pas, elles sont des œuvres en elles-mêmes, même si on a par exemple une pause de 10 minutes pour par exemple fumer une cigarette, on est dans une sorte de protocole de permanent qui fait que de permanent, c'est-à-dire qu'on fait pendant 10 minutes, voilà. Et donc même toute pause, même quand on va au WC, ce n'est pas une véritable pause WC parce qu'on doit chanter à l'intérieur des WC. Je pensais à une autre chose tout à l'heure, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de véritable danse, mais enfin, en l'occurrence, j'ai l'impression de danser pendant 6 heures. Mais si on parle de danse, par exemple, on fait un extrait du Lac des Cygnes, qui est une traversée où en fait on doit simplement atteindre un point qui est désigné par une personne, et on doit atteindre ce point avec ce pas de danse, avec les yeux fermés. Et quand on arrive au point que l'on s'était donné comme but, nous réussissons cette œuvre. Voilà, ce qui est une chose assez délicate à effectuer en général. Les différents, en fait, c'est difficile de parler aussi de cette exposition comme d'une globalité, dans la mesure où chacune des œuvres demande une part de transmission qui à chaque fois s'est faite de façon très singulière. Vous parliez de partition tout à l'heure. Certaines œuvres sont vraiment données sous forme de partition, donc somme toute assez classiques, comme celle de Michael Parsons, où nous lisons des partitions pour évoluer dans l'espace. Il y a également une autre partition qui se fait sous forme de papier également, que l'on découvre chaque jour, qui est l'œuvre de Philippe Eglis, qui est la deuxième œuvre que nous effectuons, qui dure une demi-heure, et qui est une partition à chaque fois très dansée, qui est dans la transmission de la danse ou dans le fait de retraverser des danses que l'on a apprises, ou dans le fait d'enseigner, d'enseigner aux autres danseurs ces différents parfois échauffements, parfois chorégraphies pré-acquises. C'est vrai que d'invoquer la notion d'interprétation, en fait, j'ai vraiment l'impression que plus qu'être interprète, on est presque devenu des collaborateurs de cette exposition, dans la mesure où avec chacun des artistes, les différentes œuvres ont à chaque fois été modulées en fonction des nécessités que nous avions, de l'espace et du temps qui nous était imparti pour les performer, pour les danser. Et chacune des œuvres était à chaque fois retransformée, reformulée, remalaxée en fonction des exigences de chacun des artistes, mais également en fonction de chacune de nos nécessités. Qui peuvent être liés soit à la faisabilité de certaines œuvres ou simplement le fait que l'espace ne permettait pas de faire ce qu'ils avaient envie de mettre en place, de mettre en œuvre. Je peux peut-être rentrer un peu plus dans chacune des œuvres. Je pense à celle de Jennifer Lassay qui en fait non pardon je reprends en fait l'exposition est pratiquement chaque jour la même. J'entends que la structure en fait est vraiment identique chaque jour, si ce n'est celle de Jennifer Lassay qui, du coup, a pensé à ses inter-œuvres, ses dites transitions, et qui sont chaque jour remises en œuvre dans l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Il y a un système qui est assez simple de répartition de ces œuvres en fonction concrètement, nous prenons un papier et nous répartissons en fonction d'un ordre alphabétique. En fait, je suis en train de trop rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. En fonction de protocoles très précis, nous répartissons les 14 transitions qui nous sont données pour penser quelle va être la transition pour l'œuvre suivante. Je ne sais pas si c'est très clair. Pour nous, ça l'est dans la mesure où nous savons exactement... En fait, c'est assez troublant, tous ces yeux, je suis désolé. Non, dans la mesure où je sais... Tous ces yeux. Oui, moins quand je dois expliquer quelque chose, je ne sais pas trop où je vais, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai... Si vous voulez, ceci, oui. Non, ça, oui, simplement, excusez-moi. Non, par rapport à l'œuvre de Jennifer, en fait, c'est la seule œuvre qui, chaque jour, est complètement chamboulée par rapport au temps, où elle est à chaque fois répartie de manière complètement différente. Voilà, c'est à peu près très brièvement ce que
Par
je...
contre, c'est voilà. Pas la seule qui est complètement chamboulée chaque jour.
C'est-à-dire
que moi, chaque semaine, pardon, quand je reviens chaque semaine, il y a plein de pièces que je reconnais pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas que celle de Jennifer.
Oui, non, complètement. Il y a vraiment une évolution de chacune des œuvres dans la mesure où le fait de l'interpréter C'est un peu le devenir, enfin l'un des intérêts, j'ai l'impression, de cette exposition, c'est l'altération de l'œuvre en elle-même, c'est-à-dire que dans la mesure où les artistes sont partis le lendemain du vernissage, il ne tient qu'à nous de la faire évoluer ou non dans un sens qui l'altère ou qui la poursuit. Certaines œuvres sont très écrites et il est dès lors très difficile d'y déroger. Certaines sont beaucoup plus poreuses et nous permettent justement à l'intérieur de pouvoir les retraverser et les revivre de façon complètement différente en fonction du jour, de l'humeur et aussi de ce qu'elles nous permettent, parce que certaines de ces œuvres nous demandent presque de les réinvestir de manière très spontanée, très improvisée, entre guillemets. Il y a également des partitions qui nous demandent d'être avec le présent, d'être en phase avec une écriture, mais une écriture qui à chaque fois est remise en jeu à chaque fois qu'elle est jouée.
Comme quoi ?
Comme celle de Karl, où en fait chaque jour nous écrivons de nouvelles paroles qui sont à chaque fois à être relues en fonction de règles qu'on se propose, soit individuellement, soit avec le groupe, qui est une œuvre qui est dite et chantée et lue pendant un quart d'heure et qui est répétée trois fois durant l'exposition. C'est celle-ci même. Et l'ordre est totalement... Comment ?
Première question dans le public. Il y a un micro public. Ah pardon, je me demandais en fait dans quelle mesure il pouvait justement vous en tant qu'interprète, parce que enfin moi j'ai pas vu l'exposition, j'en suis désolée, mais j'imagine que quand on rentre dans l'exposition, on se trouve, enfin tu parlais de, on est comme ça confronté frontalement à une œuvre, mais moi comme je l'imaginais, on est plutôt confronté à des gens en fait. Et du coup, et tu parlais tout à l'heure du fait que tu doives répéter comme ça pendant 10 minutes, même quand tu es aux toilettes. Et je me disais que du coup, il y avait peut-être une forme de résistance, toi en tant qu'interprète, par rapport à toutes ces contraintes, à toutes ces instructions, etc., qui fait que... Enfin, je ne sais pas comment tu vis ça, en fait. Est-ce qu'il y a des fois où ça te semble tellement insupportable de ces partitions ou ces instructions contraignantes ? Comment ça marche ?
Non, je ne ressens pas le fait d'être contraint dans la mesure où, par exemple, je n'ai pas, entre cette expérience-là et le fait d'être interprète pour certains chorégraphes, l'endroit d'interprétation, justement, dans le sens se rendre disponible et être suffisamment libre de déroger à certaines règles. Il se trouve que on n'est jamais autant libre que quand on a un maximum de règles à exécuter. Et à partir du moment où il y a certaines données qui nous sont demandées, il ne tient qu'à nous de les dévier parfois, mais en même temps, on doit tellement aussi s'approprier certaines œuvres que le fait même de les traverser est déjà une expérience suffisante pour ne pas penser non plus à la dépasser, à déroger à certaines règles. Le fait d'être contraint, je ne le ressens pas vraiment. J'entends, enfin, il y a de toute façon... On est tout le temps mobilisé, c'est-à-dire que certaines œuvres nous demandent d'être exécutées en 10 minutes. Et du coup, pendant ces 10 minutes, il y a un investissement permanent qui nous il y a un investissement qui nous demande aussi d'être aigu avec ce que nous on a aussi à ce moment-là la sensation de vivre par rapport à aussi le simple fait de la non, en tous les cas, je sens pas cette nécessité de d'échapper à quelque chose. Enfin, je me sens pas dans une certaine contrainte ou un certain carcan qui fait qu'on aurait à le dépasser ou à y déroger.
Je pensais pas ça d'une manière négative du tout. Hein. Simplement, comment justement ton corps il peut s'habituer à certains gestes et puis résister à d'autres, en fait. Et tu vois comment après sur une aussi longue période de temps sur tout ça, parce que comment en fait tu gères ce truc-là en fait. Pardon.
Non, pas du tout. Non, simplement, du coup, il y a l'œuvre de Michael Parsons est la plus éprouvante alors qu'elle est la plus minimale. C'est cette œuvre qui dure une heure où nous sommes sur des principes de vitesse, de pause, de décélération du temps, d'être dans une subjectivité du temps. Et on sait que quand on part dans cette œuvre-là, on en a pour une heure. Mais du coup, le temps devient complètement dissolu. Et je sais que la première fois qu'on l'a traversé, on ne l'avait jamais fait réellement une heure. Et ce que ça a permis dans cette exposition, c'est vraiment de rentrer dans un temps complètement autre, aussi parce que le corps souffre dans cette œuvre-là. C'est-à-dire que le fait de rester immobile pendant 15 minutes, c'est une chose somme toute très très banale a priori, mais c'est bizarrement l'œuvre qui est la plus douloureuse pour le corps, tout simplement parce que justement la contrainte est telle que le corps est toujours dans une sorte de mini mouvement permanent, mais voilà, l'œuvre nous demande d'être dans cette exigence-là, et c'est peut-être celle qui me demande d'être dans l'imaginaire pour pouvoir aussi partir en permanence et revenir et être dans ce mouvement permanent entre le fait de l'exécuter entre guillemets et en même temps de pouvoir aussi être à l'extérieur et à l'intérieur du corps en même temps.
Question un peu de détail aussi. Je voulais savoir en fait s'il y avait plusieurs personnages en fait parmi les trois. Est-ce que vous êtes tous dans la même performance ou est-ce qu'il y a en fait des personnages et quand vous vous remplacez les uns les autres, est-ce que c'est une autre
Alors la plus on est la plupart du temps dans un même espace. On est rarement séparés. On est la plupart du temps dans une commune action. Mais je pense à l'œuvre de Michael Effia, où justement on peut vraiment. C'est presque la seule où on peut parler en termes de personnages. Justement, c'est une œuvre, je la décris, elle a été prise en photo en fait. C'est une œuvre où l'un des trois interprètes doit faire une sorte de simulation du cours de la bourse par un système de chiffres de plus ou moins et de nombres. Et les deux autres interprètes doivent réagir à ces différentes lettres en partant dans une sorte d'improvisation criée à partir des trois premières lettres citées. Du coup, c'est vraiment un protocole où il y a vraiment une interaction directe, mais en étant à chaque fois dans du différé et dans des rôles différents. Donc c'est vraiment, je crois, la seule œuvre où on peut vraiment parler, comme vous dites, de personnage. Les autres sont beaucoup plus abstraites, ou en tous les cas plus dans du protocole et nous dans de l'exécution, entre guillemets. Et c'est peut-être la plus théâtrale, entre guillemets, de toutes.
Mais vous changez les rôles, enfin, c'est pas toujours la même personne qui fait...
Non, c'est une œuvre en fait qu'on répète 7 fois durant l'exposition et on permute les rôles à chacune des effectuations de cette œuvre.
Aussi, pour répondre à ta question, Karen, enfin, je sais pas si ça y répond, peut-être au-delà de la question du personnage, c'est vrai que si tu revois la même pièce le lendemain avec d'autres danseurs, évidemment, elle n'aura rien à voir. Alors, c'est peut-être moins une question de personnalité que d'intensité, mais c'est quand même lié à ce que vous êtes, vous. Ouais, de l'interprétation et aussi d'une certaine manière de... Donc, ben après, bon, on en reparlera après peut-être sur la question du travail collectif justement, mais pour moi c'était important de travailler avec vous, enfin c'est Mathieu qui l'a choisi, c'est pas moi, non. Parce qu'à Saint-Gall par exemple, l'expérience qu'on avait eue c'était de travailler avec une compagnie de danse, de très jeunes danseurs, très techniques, assez académiques, etc., qui avaient entre 18 et 20 ans. Qui se sont pas vraiment approprié le projet, en fait. Je pense que, du coup, c'était aussi un peu différent parce que eux étaient plus dans l'exécution. Ils comprenaient pas forcément très, très bien ce qu'ils faisaient là. Enfin, ça, ils se faisaient plaisir, mais bon, je sais pas s'ils comprenaient très bien les enjeux. Et eux, je les ai vus, les 12, 3 par 3, ils étaient plus ou moins interchangeables. Alors que physiquement, ils étaient très différents, etc. Mais il y avait quelque chose, je sais pas comment, du coup, toi, tu fais la distinction, mais moi, qui me rappelais plus un corps de ballet classique, où les danseurs finissent par se ressembler tous, plus ou moins, ont la même énergie, la même manière d'interpréter les pièces, qui est vraiment pas du tout le cas entre vous quatre, quoi.
Après, évidemment, nous n'avons pas 18 ou 20 ans, ça c'est sûr. Évidemment, je sais que, après je parle pour moi, je sais que les chemins que chacun de nous, que je choisis, sont en fonction de l'endroit aussi où j'ai envie de travailler. Et la plupart des œuvres aussi nous permettent justement d'être à un endroit qui nous respecte dans la mesure où on est aussi à l'endroit de là où on a envie de chercher, de creuser. Et notamment, du coup, comme on est sur cette œuvre-là, on est en permanence. Enfin, cette œuvre a énormément évolué entre la phase de transmission et là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est évident qu'on a banni certaines règles simplement parce qu'elles nous semblaient vaines dans la répétition et dans justement l'exigence qu'elles nous demandaient qui permettait dans la transmission que eux nous en avaient donnée d'être altérés. Enfin, c'était aussi une possibilité que eux nous avaient donnée et aussi de travailler à l'endroit de justement où ça nous semble juste et là où ça nous est profitable à chaque fois qu'elle est effectuée.
Mais c'est vrai que du coup, on peut voir dans ce sens-là l'exposition comme une période de travail pour vous, une période de recherche. Et que le jour du vernissage, c'est pas comme dans la plupart des expositions, sauf les vôtres, le point d'aboutissement, mais le jour du vernissage, c'est le point de départ de tout ce qui va se passer. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi quand on avait travaillé avec Karen à la boxe. C'était quelque chose que j'arrivais pas trop à me formuler, mais je me disais que c'était quand même intéressant de regarder du spectacle du côté du spectacle vivant de ce point de vue-là, parce que il y avait cette idée de répéter les choses plusieurs fois, de reprendre une pièce, et que une pièce de danse ou de théâtre, quand elle commence à être jouée, c'est que le début, et que 2 ans après, elle va être complètement transformée. Et nous, c'est quelque chose qu'on connaît peu en tant que commissaire d'exposition, à part en faire vraiment un principe de travail, mais cette idée de répéter les choses, de les rejouer, en fait, d'une certaine manière, et pas forcément pour les améliorer, mais en tout cas pour voir ce qui se passe dans la durée, dans ce travail-là
je sais pas comment l'appeler, mais voilà, enfin, c'est ce rapport au temps aussi qui est complètement différent pour voilà, pour un artiste qui fait une exposition ou un commissaire d'exposition.
Je voulais excusez-moi, je voulais juste peut-être rebondir là-dessus. Je voulais poser une question ou parler sur cette chose justement qui fait une impression hallucinante, cette exposition de la ferme du Buisson, et de l'avoir vue au vernissage et puis d'y repenser maintenant avec la présentation qui en était faite, avec ce principe qui crée un effet que les danseurs, performeurs, interprètes deviennent des éléments réifiés, équivalents à l'éclairage et aux cimaises. En tout cas, moi, ça produit cet effet-là et c'est assez impressionnant de voir justement la différence entre votre travail sur une scène, un moment ponctuel pour un spectacle, et là, de continuer à le faire même quand il n'y a personne. Ça vous rend équivalent aux cimaises et à l'éclairage. Et ça, je trouve ça assez intéressant, assez incroyable, parce que là, j'ai la sensation que toi, là, Mickaël, qui est là, t'es une œuvre qui est en train de parler. C'est la première fois que je peux parler à une sculpture ou à un tableau qui dit qu'est-ce que c'est d'être l'œuvre pendant comme ça 24 heures, ou pas 24 heures, mais dans ma tête, ça devient équivalent. T'es présent, tu es l'œuvre pendant toute la durée de l'ouverture de l'exposition. Et c'est quelque chose justement qui rejoint des questions moi qui m'ont toujours intéressé par rapport à la question de l'expo, c'est est-ce qu'une expo c'est live ou pas ? Avec cette thématique de est-ce qu'une œuvre c'est vivant ? Est-ce que c'est live au sens vivant au sens quand on traduit avec le terme, puis en même temps avec ce que ça comporte de notion de spectacle quand on dit le mot live par rapport à la question de la scène, ou est-ce que c'est en marche par rapport au rendement que vous faites quand vous êtes en pause un petit peu. Est-ce que l'œuvre elle est branchée on quoi ou off? Et donc c'est pour ça que ça rejoint la question aussi du travail, c'est-à-dire je sais pas aussi qu'est-ce que c'est d'être une œuvre. Est-ce que t'emportes l'œuvre chez toi quand tu rentres le soir? Est-ce que t'es toujours l'œuvre maintenant?
Non, c'est très drôle parce que je n'ai jamais pensé les choses en ce terme-là, c'est-à-dire de me sentir œuvre. Ce que j'implique, c'est simplement que ma sensation, mon impression, et j'ai l'impression aussi que l'intention de Mathieu était plutôt à cet endroit-là, c'est qu'on se fait plutôt, on les traverse, c'est-à-dire qu'on les porte, mais on ne l'est pas. Enfin, on n'est pas cette œuvre. On est plutôt porteur de ce qu'elles sont, d'autant qu'on est à trois, donc c'est aussi tout ce qui se passe entre ces trois corps qui crée l'œuvre. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ce qui se passe dans les pièces à côté, parce que la ferme du Buisson est composée de 7 salles différentes, et je pense souvent aux spectateurs qui sont dans une pièce où je ne suis pas. Et je me dis quelle perception ils peuvent avoir, par exemple, de ce que je suis en train de produire. Si c'est du mouvement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus abstrait, mais du coup, comme beaucoup d'œuvres sont aussi sonores, quelle perception ils peuvent avoir du son que j'émets s'ils sont dans la salle de côté, et encore plus abstraitement si ils sont derrière trois ou quatre murs de distance.
Tu as une connaissance intime de cette œuvre, plus que l'artiste presque qui l'a produite, non ? Je sais pas. C'est un truc que j'imagine, hein, que je fantasme. Tu vois, là, je t'imagine comme une sculpture. Et donc,
mais ça me gêne.
Non, mais c'est une sorte de jeu poétique comme ça qui rend le truc intéressant aussi pour moi, personnellement. Mais...
Il faut que tu parles dans le micro. C'est enregistré.
Je voulais savoir, voilà, quand il y a un spectateur ou quand il n'y en a pas, est-ce que finalement votre jeu il est le même ou est-ce qu'il est différent? C'est-à-dire que, évidemment, pour que ce ne soit pas un spectacle, il faut que vous jouiez en permanence, à partir du début jusqu'à la fin de l'exposition. Mais j'imagine qu'il y a plein de moments où il n'y a personne. Et est-ce que vous parliez donc de la réception de certains visiteurs qui sont dans d'autres pièces, comment vous les ressentez, etc., comment vous les imaginez, vous les perceviez? Donc forcément, vous avez une perception des visiteurs. Je voulais savoir à quel point elle influe, ou justement elle n'influe pas quand ils ne sont pas là, sur votre... sur votre jeu.
Plus le temps passe et plus je trouve que l'expérience de la solitude est quelque chose de difficile. Enfin, quand au tout début, après, je suis désolé hein, pour mon intervention, parce que elle était plutôt confuse à un moment. Mais ce que j'impliquais au tout début, c'est cette notion de vertige. Et je pensais surtout à ce que vous décrivez, c'est-à-dire comment on porte cette exposition sur 6 heures, sachant que parfois, sur les 6 heures, ne vont être les spectateurs ne vont être présents que pendant une heure. C'est vrai que le rapport au temps est quelque chose de très difficile. Et l'interprétation diffère totalement. C'est-à-dire que, en ça, on peut vraiment faire un parallèle avec le spectacle vivant, dans la mesure où de savoir qu'il y a des yeux qui portent une attention sur vous, on n'est pas dans le même type de présence ou le même type de comportement ou de posture, d'un corps quand on sait qu'on est regardé, quand on sait qu'on ne l'est pas. Et c'est vrai que ça modifie beaucoup aussi l'enthousiasme à le faire parfois. Je pense que c'est aussi en termes d'enthousiasme, c'est-à-dire c'est très difficile parfois d'être dans un espace entièrement vide, à part la personne qui reste à l'accueil, qui est notre spectatrice permanente. Mais en dehors d'elle, c'est vrai que c'est quand même un rapport au temps qui est très particulier et parfois c'est très difficile, oui. Et on a connu, surtout le dimanche, venez le dimanche, un sentiment de solitude qui est amplifié et parfois, oui, très douloureux, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, oui, c'est quelque chose qui porte en tous les cas le regard de l'autre.
Je voulais rebondir justement à la question à Michael. Est-ce que ça marche? Pour être allé au vernissage, c'était il y avait beaucoup de gens et j'imagine que c'est un moment très particulier avec tous ces gens qui viennent d'un coup. Mais je me suis demandé si c'était voulu parce que à un moment donné, c'était assez frappant de vous voir interpréter, mais à un moment donné, les gens vous suivaient, mais on avait l'impression que vous refusiez presque les spectateurs, en fait. Est-ce que vous refusiez la communication avec les spectateurs à ce moment-là, pendant le vernissage, ou est-ce que vous étiez en train de jouer, justement, avec les spectateurs, ou voilà.
Comment? Ah, tu crois? Non. Pardon, on s'est croisé plusieurs fois. Tu parles de. tu parles d'une pièce en particulier ou tu parles de l'expérience sur la durée? Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Alors, du coup, les premières œuvres nous demandent aussi d'avoir un regard plutôt très solitaire dans le sens d'être plutôt à l'intérieur, c'est-à-dire de souvent faire abstraction des spectateurs. Et je sais que le jour du vernissage, après, on a un peu modifié le regard qu'on peut porter sur d'autres présences que nous, parce que parfois il y a un rapport très solide, très individuel, parfois un rapport plutôt complice avec les deux autres interprètes. Et parfois aucune indication. Donc dans ces non-indications, évidemment, on peut être dans une espèce de sincérité de regard, d'être dans une confrontation plutôt très directe et très franche avec les gens. Sauf que les trois premiers quarts d'heure sont plutôt dans une exigence de plutôt couper. En tous les cas, c'est pas qu'il faut faire, qu'il ne faut pas prendre conscience de ce qui nous entoure, mais en tous les cas de ne pas être avec, de ne pas aller vers. Et je sais que le jour du vernissage, aussi pour être dans une globalité de l'exposition, il m'était beaucoup plus facile de conserver cette indication entre guillemets qui me permettait aussi d'avoir un fil conducteur pendant toute l'exposition, du coup de conserver vraiment ce type de rapport. Depuis, et ça c'est aussi une des altérations de l'exposition dans ma propre expérience de celle-ci, c'est que maintenant je me dis mais il y a des êtres vivants autour de moi, je vais aller vers, je peux communiquer, je... Après, le rapport à la parole, c'est encore une autre dimension, mais en tous les cas, le fait de ne pas couper court à toute relation, ne serait-ce que de considération, enfin de, pardon, de... c'est parce que ce rapport, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment posé question. Les trois premiers jours, si je peux être assez concret, je sais que c'était une aide pour moi de rester dans dans ce rapport là. Depuis, je l'ai aussi beaucoup modifié. Donc le jour du vernissage, on était je crois tous les trois, parce qu'on en a discuté aussi ensemble après, on avait plutôt pris cette décision de plutôt conserver ce regard qu'on nous a demandé dans certaines occasions et de le prolonger. Ça permet aussi d'avoir une épreuve du temps sur les 6 heures qui est plutôt d'avoir une traversée globale, parce que aussi le fait de couper une œuvre pour passer à une autre, c'est aussi un état très particulier. Donc du coup, si on peut avoir des sortes de béquilles qui peuvent être de l'ordre de l'investissement déjà quel type de rapport on peut avoir avec les spectateurs, c'en était une le jour du vernissage en tous les cas.
Je voulais revenir sur deux choses. En fait, on parle beaucoup d'interprétation et de perception. Ça se rejoint certainement d'ailleurs. Peut-être l'interprétation, c'est aussi la question du jeu et de voilà. Effectivement, comme disait Julie, la manière dont vous portez aussi les pièces. Moi, je voulais revenir sur la perception en fait, parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont dites qui me semblaient assez intéressantes dans ce que tu disais tout à l'heure sur la manière dont dont vous percevez ce que vous êtes en train de faire et dont elles ont été prévues et discutées avec les artistes, avec le commissaire, et finalement la manière dont elles sont peut-être perçues autrement par le public aussi. Je trouvais ça assez intéressant parce que c'est évident que dans toute forme de présentation publique, on est toujours dans ce décalage ou cette attente ou cette interrogation entre ce qu'on a passé un certain temps à préparer et finalement ce qui est visible ou perçu ou interprété par le public. Et donc cette question de la subjectivité aussi qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Julie, par rapport aussi au fait qu'on peut voir l'exposition de plein de manières différentes, parce que c'est pas juste un début ou une fin, mais c'est vraiment, enfin, ni quelque chose qui n'évolue pas, mais bien sûr quelque chose qui est tout le temps différent et qui est à plusieurs entrées, etc. Et du coup, j'avais un peu envie de vous poser la question de la mémoire, qui me semble assez importante dans ce projet, non seulement parce que vous êtes sans cesse en train de vous remémorer ou en train d'être presque dans la récitation, enfin de retrouver, on voit beaucoup de moments où il y a soit des hésitations, soit vous regardez vos notes, on ne sait jamais très bien ce qui est de l'ordre de l'improvisation ou du jeu justement sur le... Moi, j'avais un peu l'impression, par exemple, d'arriver aussi au milieu de séances de travail. On ne savait jamais ce qui était une répétition, une performance. Enfin, je trouvais que c'était assez marquant. Et aussi, cette question de la mémoire, c'est aussi finalement qu'est-ce qui reste de cette exposition. Je sais que vous faites une sorte de finissage le 21. Vous allez échanger les multiples expériences vécues. Et c'est aussi une expo où il n'y a pas vraiment de traces non plus, publication ou autre. Donc voilà, c'est plusieurs questions en une, mais je voulais qu'on revienne un peu là-dessus, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est là aussi où on est effectivement sur un fil qui tend vers vraiment la question de l'exposition, parce que évidemment le spectacle vivant, etc., ça peut être enregistré, mais c'est des traces assez différentes. Et je crois qu'on rejoint quand même la question de l'exposition aussi à ce niveau-là.
Pas compris la question. Ah oui, de 21. Bah, de toute façon,
C'est vrai qu'à l'origine, il y avait cette idée de ne pas enregistrer l'exposition ou d'en produire de traces qu'il aurait forcément figé dans une vision donnée à un moment donné et qui était complètement contradictoire avec le projet, puisque l'idée, c'était de travailler sur le mouvement. Donc, c'était absolument mortifère, je pense, de faire ça et contre nature. Bon, pour l'instant, on a décidé de faire un vin chaud le 21 décembre, un dimanche soir à 20h, donc après la toute dernière heure de l'exposition, d'organiser une discussion avec les danseurs, le commissaire et j'espère quelques spectateurs qui reviendraient, ou enfin, soit qui seraient là le 21 décembre et qui resteraient jusqu'à 20h, et du coup que ce soit une sorte de think tank ou je sais pas, de caisse de résonance de l'exposition. Et d'une forme de petit travail collectif sur une mémoire immédiate en quelque sorte, et qu'est-ce qu'on peut un peu transmettre de ça. Mais non. A priori non. Moi je suis pas la commissaire de l'expo, donc il y a des choix aussi que je peux pas faire. Je sais que Mathieu a un peu envie de faire un film qui serait plusieurs films en un en ce moment. On n'est pas forcément d'accord sur cette question-là. Enfin, moi, je pense que c'est aussi un projet qui tient par sa radicalité et que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout du truc. Après, c'est vrai que ces questions de traces, de toute façon, elles ont été beaucoup travaillées dans les années 60-70 par les artistes du Land Art, de l'art conceptuel, du body art, etc. Qu'est-ce qui restait en fait d'une action donnée? Ou de travaux in situ d'ailleurs elle n'est pas tout à fait réglée et ça m'a rappelé juste quand on parlait de ça une conversation, une rencontre qu'on avait fait avec Daniel Buren à Bourges où Rémi et Karen étaient là, où il nous disait finalement à un moment donné, donc certains artistes pour ne pas les nommer, Richard Long et d'autres décident de produire des photographies de leur travail, de land art, etc., et de les vendre dans les galeries. Donc d'autres refusent absolument cette question-là. Et par contre, ils faisaient une distinction assez intéressante entre des positions ultra radicales comme celle d'artistes comme Stanley Brown, qui a toujours refusé, mais radicalement, toute trace de son travail, et Buren, qui décide néanmoins de photographier, sans que les photographies viennent se substituer au travail, mais de photographier son travail pour en garder une mémoire, tout en répétant depuis 40 ans que les photographies servent à rien et que c'est pas du tout en voyant les photographies qu'on comprend l'œuvre, etc. Et en même temps, il les multiplie. Et lui, il avait fait ce choix-là parce que il disait qu'il y avait un risque de mythification ou de forme de rumeur ou de légende comme ça qui pouvait être encore pire qu'une série de photographies qui allait venir se substituer à l'œuvre. Alors là, non mais moi j'ai vu ce truc de Buren, c'est extraordinaire et tout. C'est quelque chose qui peut se passer, enfin peut-être pas dans un sens, mais en tout cas c'est aussi l'écueil du pur événement qui n'est pas relayé par des traces physiques construites, etc. C'est qu'à un moment donné, ça se dilue effectivement dans une forme de rumeur comme ça, où il se raconte peut-être n'importe quoi. Mais ça, c'est à Mathieu de répondre à cette question, de savoir si peut-être parce que ça va forcément passer par une forme de récit, même s'il n'est pas mis en forme par le film ou par d'autres supports. Mais par des récits qui se feront de bouche à oreille, etc. Est-ce que ça l'intéresse que l'exposition perdure comme ça aussi? Et j'ai eu l'impression jusqu'à maintenant que la question de l'oralité l'intéressait énormément. On nous a beaucoup posé la question des partitions. Où sont les partitions? Est-ce qu'on peut les lire? Nous, on voudrait bien voir comment ça a été écrit, etc. La plupart n'existent pas parce que c'était vraiment une transmission orale. Et moi, j'aime bien ce côté un peu archaïque comme ça de choses qui traversent à la fois le temps, les espaces et surtout les différentes personnes qui sont, parce que c'est pour moi ce projet, je pense qu'il n'en parlerait jamais comme ça, mais comme il n'est pas là, je me permets. C'est aussi vraiment une histoire d'architecture sociale et dans ce sens-là, ça pose vraiment la question de l'exposition collective qui là se construit justement par une transmission de paroles comme ça qui est pas plus matériel que ça. Et je trouve que c'est bien parce que c'est quand même un projet qui pose de manière hyper forte et hyper politique cette question de l'immatérialité aujourd'hui. On est quand même dans un monde saturé d'objets, etc. Moi, je suis ravie d'avoir pu présenter une exposition quasi vide à la ferme du Buisson. C'est pas rien. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça.
Non, moi, j'ai une question. Merci pour le vide. Non, je plaisante. Simplement, quel statut Mathieu donne-t-il à ce film, du coup ? C'est vraiment en termes de traces ou...
Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rediscute ensemble. Oui, c'était une forme de mémoire. Donc, son idée, c'était de faire filmer l'exposition par au moins 3 cinéastes différents. Mais bon, franchement, qui va regarder un DVD avec une captation ? Là, on va être quand même... Même si c'est des gens qui filment très bien, ils pensaient à Phil Niblock, qui est quelqu'un qui a filmé toutes les performances de la Judson Church dans les années 60 aux États-Unis. Donc, c'est totalement historique et tout. Mais en même temps... Je pense que c'est complètement artificiel de dire on va avoir 3 points de vue sur l'exposition, de manière métonymique, ça nous donne l'idée de tous les points de vue qu'on peut avoir. Ça, je pense que ça ne remplace pas l'expérience, quoi.
Non, juste le mot que tu viens de citer, historique, en fait, dans le choix des gens qui filmeraient cette expérience. Et c'est le mot aussi... qu'employé Daniel Buren au sujet de ses photos souvenirs, c'est vraiment par rapport à l'histoire et pour pas que l'histoire soit réécrite. Et donc, il y a quelque chose qui se joue aussi par rapport à une trace historique dans l'histoire.
Mais je crois que le mot rumeur aussi est très important parce que quelque part, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas voir cette exposition et qui vont en entendre parler parce que c'est quelque chose de marquant et parce qu'elle se raconte aussi, quoi. Même si on la racontera pas tous de la même manière, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous... bien tout compris et que c'est pas évident à décrire non plus, mais c'est quand même quelque chose qui se raconte, un espace qui est vide avec des danseurs qui interprètent des pièces, etc. Donc je pense que finalement c'est quasiment un médium aussi de cette trace, quoi, cette rumeur là et que oui, complètement, parce que finalement je pense que c'est comme les expositions, effectivement, que tu n'as pas vues, mais qui sont suffisamment marquantes pour qu'elles circulent sous cette forme orale et que tu peux les lister, mais tu ne les as pas vues, quoi. Et je pense que ça fonctionne aussi.
Je pense justement que c'est lié au fait que l'exposition devient un événement. C'est un événement continu, pas un événement au sens comme média, etc. C'est un événement pour chacun. Et c'est ça qui fait que, voilà, comme tout événement, ça produit de la parole, quoi. Ça produit un échange entre les gens qui veulent comparer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas vécu. Il y a ce principe comme ça de brièveté qui est comme le projet 35 heures, quoi. Il y a quelque chose comme ça de compact, de court. C'est un événement, c'est-à-dire du début à la fin, ça continue, c'est un truc vivant qui se produit. Ça se produit comme un truc live, quoi, qui est en cours de route.
Mais en fait, je me sens un peu responsable parce que je me rappelle que quand on parlait de cette exposition avec Mathieu, au début, moi, je voulais toujours qu'on parle autour. Je voulais organiser des discussions. Et d'ailleurs, l'équipe de la ferme aussi était très friande de rencontres avec les danseurs, etc. Et lui, en fait, il n'était pas du tout... intéressé par ça, il me disait toujours « tu veux toujours qu'on parle, etc. » Donc, en même temps, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Je ne sais pas si c'est une dimension qu'il assume totalement. Enfin, cette discussion du 21, c'est quand même lui, je crois, à un moment donné, qui a eu besoin de la faire. Mais alors, du coup, par rapport à ce que vous dites, est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on raconte, où une exposition peut se raconter comme ça, moi je pense qu'elle peut se raconter toute proportion gardée, parce que c'est ce que font les journalistes en ce moment, ils écrivent dessus, ils ne viennent pas la voir. Mais moi j'adore raconter des expositions, je pense que c'est vraiment un exercice en soi, que si c'est fait par des artistes, ça peut même devenir une œuvre, etc. Mais je pense quand même... Comment dire ? Moi, j'ai un rapport très analytique aux objets artistiques que je vois, etc. Et j'ai l'impression que j'ai toujours eu l'impression qu'on pouvait tout dire, tout décrire. Enfin, je suis vraiment dans ce rapport de description comme ça. Et avec cette exposition, je me rends compte qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on parle autant, Michaël et moi, pas première fois, enfin, on nous l'a déjà dit, surtout moi. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui est vraiment de l'ordre de l'expérience, qui n'est pas complètement transmissible. L'autre jour, on a fait une rencontre avec les spectateurs à la ferme du Buisson et on parlait, enfin on était quatre avec deux autres danseurs, on parlait et on tourne autour de l'objet sans arriver vraiment à le fixer justement par la parole. Donc en même temps, c'est presque un jeu de... Là, le langage vient se confronter à ça, mais quand même dans un peu dans un échec, quoi.
Mais ce que tu dis, moi, ça me fait vraiment penser qu'il y a une fonction du cinéma qui est ça, c'est d'enregistrer l'expérience. Tout cinéaste de fiction documentaire, ouais, il est là pour enregistrer et laisser une trace articulée, pensée, réfléchie, calculée, mise en scène, de quelque chose qui est unique, toujours. Une prise de vue, c'est toujours unique. Mais quand même, ouais, c'est pensé, c'est pas forcément documentaire. C'est pour ça que je pense qu'il y a... pour moi, il y a un sens profond à ce que le cinéma vienne là-dedans, quoi. Ouais. Ça appelle le cinéma, en tout cas, au sens noble, au sens d'avoir une fonction d'un enregistrement pensé, pas, et peut-être même, justement, une fois, je t'avais dit comme ça en rigolant, mais peut-être la meilleure façon d'enregistrer cinématographiquement l'exposition, c'est d'avoir, je ne sais pas, une heure de vidéosurveillance de l'espace.
Oui, c'est marrant parce que quelqu'un d'autre m'a redit la même chose cette semaine. Il m'a dit « j'aimerais bien faire un film avec un plan fixe que les danseurs traversent en fait et qu'on les entende, qu'il y ait tout un jeu sur leur champ comme ça où on entende ailleurs, que l'espace soit pas forcément entièrement filmé de manière panoptique, etc. mais que juste ils définissent un espace qui parle de tous les autres espaces.
Ouais, c'est le même problème que comment on enregistre une œuvre de Stockhausen ou de John Cage, quoi.
C'est ce qu'on avait fait dans les 35 heures. On avait filmé la réserve non-stop pendant 35 heures, qui était justement cet espace qui signifiait tous les autres espaces. Et en fait, tu avais donc au bout d'une heure, en tout cas, accès à la fois à l'image de la réserve et à l'image, enfin en live, enfin, et à l'image en différé. Tu vois, donc tu pouvais voir aussi l'évolution de ce que tu avais raté. Et on avait une personne qui filmait aussi en continu tout ce qui se passait. Et donc, il y avait un autre écran qui permettait d'avoir accès à ce qu'on avait raté et donc à voir d'autres points de vue que ceux qu'on avait, soit en tant que spectateur.
Mais, pardon, simplement par rapport à ces histoires de traces, c'est vrai que ça pose question d'autant convoquer l'immatérialité de l'œuvre et de se poser ce type de questions sous cette forme-là. Moi, je sais pas, je n'ai pas forcément un avis très arrêté sur ces questions-là, mais tout se passe par... tu parlais de rumeurs, la première fois que cette exposition a été évoqué, ça ne s'est jamais fait par mail, par exemple. Enfin, il y a toujours eu cette conversation téléphonique. Quand Mathieu nous en a parlé la première fois, c'était vraiment de vive voix. Le fait que les artistes viennent aussi, c'est une part importante de l'exposition, c'est-à-dire toute cette phase de transmission, elle ne nous est pas transmise par papier, mais les artistes eux-mêmes viennent nous la transmettre. Du coup, tout participe de ça, et du coup, sans être dans un esprit jusqu'au boutiste, quelle trace garder de ça? Est-ce qu'on reste dans une sorte de logique maintenue du début à la fin, ou est-ce qu'au contraire, on lui donne une vie autre par des traces photographiques ou des traces filmiques? Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est une chose qui est vraiment à définir aussi par Mathieu, j'ai l'impression.
Juste une question, voilà, je m'arrête après de parler, mais tu as parlé d'immatérialité, et moi quand on dit ça toujours, ça m'énerve. Et donc j'ai envie de demander comment il est payé, comment vous êtes payé, comment fonctionne l'économie de...
Nous ?
Ouais, voilà, l'économie d'être... parce que là, on glisse dans des économies du spectacle par rapport à l'expo, donc ça, c'est des questions intéressantes aussi. Et c'est surtout par rapport aux 35 heures, voilà, ça, je trouve que c'est des questions...
Nous, concrètement, on a demandé d'être payé en cachet. Voilà.
C'est ça, donc le contrat, c'est-à-dire c'est par rapport à un cachet, je connais pas bien le monde du spectacle.
C'est simplement ce qui permet c'est un système économique, l'ANP du spectacle, qui nous permet simplement d'avoir aussi accès au statut d'intermittence.
Ok, mais c'est-à-dire c'est par rapport à un nombre d'heures ou à une période de temps? C'est-à-dire vous êtes payé un cachet pour 2 mois ou par jour?
C'est un cachet par jour.
D'accord, ok.
Si on fait 3 jours, on a 3 cachets.
D'accord, ok, je comprends. Voilà.
Les artistes, je ne sais pas.
Les artistes sont payés en honoraire, le commissaire aussi.
Ah oui.
Mais moi aussi, justement, alors je ne sais pas si immatérialité est le bon mot, mais par rapport à cette question d'économie, moi je suis dans une pure économie de la dépense pour cette exposition. C'est pas inintéressant. Au début, c'était un peu inquiétant, mais c'est une exposition justement qui produit rien, qui produit pas d'objet. Un centre d'art, quand il produit une œuvre objet, la plupart du temps, il signe un contrat avec l'artiste et si l'œuvre est vendue, il récupère le montant de la production. Là, c'est évidemment invendable. C'est une exposition qui me coûte 3 fois plus cher que les autres. Et aussi une exposition dans laquelle il n'y a pas grand-chose à faire de construction, ou je ne sais pas, de ma part aussi, ou de la part de l'équipe. Donc c'est vraiment aussi assez intéressant d'un point de vue institutionnel. C'est une exposition où tu fais des chèques, tu fais que payer, et tout part en fumée en quelque sorte. Alors je ne sais pas, c'est pas forcément immatériel. Non, mais c'est plus la question de... du vide que de l'immatériel. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une exposition aussi dans laquelle on peut rentrer et les danseurs sont pas forcément dans la première salle, donc il y a quand même des moments qu'on peut vraiment passer seul au milieu de rien, quoi. Je pense que c'est quand même une expérience assez pas si courante que ça en fin de compte. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais. Oui.
Enfin, on en a un à la fin du mois. Mais c'est vrai que ça a été une vraie discussion au départ. Pour moi, c'était simplement problématique, entre guillemets, dans la mesure où on travaille pendant 2 mois sur cette exposition. Et que je sais qu'à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut se permettre simplement de la faire si on ne rentre pas dans notre propre économie, tout simplement. Donc du coup, c'est vraiment d'un commun accord qu'on est passé par ce principe par lequel on est payé habituellement en tant qu'interprète, et dans la mesure où on est aussi interprète de cette œuvre, on est aussi passé par cette économie là. Complètement.
Et pourtant aussi, quand, en tant que commissaire, quand on vient voir l'exposition, on se dit « Ah, une exposition, il n'y a pas d'accrochage, pas de montage, pas de transport. » Donc effectivement, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce qu'en même temps, de l'extérieur, on a l'impression d'une... On respire, quoi. Oui, d'une légèreté exactement matérielle, effectivement. Et on, voilà. On se dit « Ça ne doit pas être si mal.
» Je pense qu'il faudrait peut-être conclure...
Attends, je regarde mes notes. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, je voulais juste dire une chose, mais je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais parce que simplement, je pensais à ça il y a 2 jours en parlant avec quelqu'un, et que c'était aussi une des questions que vous vouliez aborder, et je pense que ça vous concerne directement. C'est une expo que moi j'ai accueillie parce que j'aurais rêvé de faire une exposition comme ça, mais j'aurais jamais pu faire une exposition comme ça. Enfin, c'est pas du tout en tant que commissaire, je veux dire.
Je trouve que c'est quand même vraiment une exposition d'auteur. Enfin, donc ça a quand même reposé toutes ces questions-là du commissaire auteur. C'est vraiment le projet du commissaire, etc. Et en même temps, je trouve que ce qui est génial dans cette expo, c'est qu'elle balaye justement toutes ces questions-là dans ce qu'elles ont d'inhibant, peut-être d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour moi, c'est un vrai travail collectif. C'est une exposition où tout le monde travaille, où tout le monde est auteur de l'exposition. C'est peut-être banal de le dire comme ça, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Mathieu, c'est quelqu'un effectivement de très, comment on peut dire, enfin, voilà, c'est vraiment son projet, il sait exactement ce qu'il veut faire, il a complètement écrit ce truc, mais en même temps les œuvres des artistes sont tout aussi importantes pour la définition de ce projet. L'interprétation et vraiment la manière dont les danseurs ont bouffé l'exposition en fait encore autre chose. Et je pense que nous aussi, en tant que spectateurs, au moment où on est sur place et plus tard dans notre mémoire, allons aussi transformer complètement cette exposition, puisqu'elle est, alors, immatérielle ou j'en sais rien, en tout cas tellement insaisissable que de toute façon on est obligé d'en faire quelque chose d'autre. Et de ce point de vue-là, je trouve assez intéressant de voir comment une exposition, ça peut être à la fois des projets singuliers, le projet d'un commissaire, le projet des artistes, le projet des interprètes, le projet des spectateurs, et que tout ça n'est pas forcément contradictoire, et que personne, de mon point de vue, mais je pense qu'on en a assez largement discuté, est instrumentalisé dans ce projet. Voilà.
C'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et...
merci à vous.
Et merci à la Maison Populaire, et merci au public d'être venu, merci à Emmanuel et à Anne.
Bien, juste pour annoncer les prochaines expositions de bureau, donc, qui vernit le 6 janvier. Et donc il y aura une rencontre dans le cadre du premier volet Perspective le 28 janvier. Qui s'appellera l'exposition comme image et l'image de l'exposition. Voilà.
Avec Rémi, qui est justement dans la salle.
Rémi Parcollet.